www.libradio.org. La radio qui entretient le suspense.
Voilà, donc nous sommes en direct depuis le pavillon bleu, en plein cœur des grottes, et nous sommes en compagnie. Bienvenue à vous d'ailleurs, et merci de nous consacrer du temps. C'est le week-end, on a peut-être d'autres choses à faire, mais voilà, il y a cette urgence impérieuse qui s'impose à nous. Et voilà, donc on est, nous en tout cas, très contents de vous rencontrer. Marie-Christine, pardon, Marie-Christophe, mon Dieu, exprès, je me prépare avant, et boum, Marie-Christophe, vous êtes à Arne, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, et Benjamin Eby, bienvenue à toi également.
Bonjour.
Alors, tous deux, vous faites partie du comité unitaire pour le non à Nobilag, c'est ça, hein ?
Genevois.
Genevois, pardon, oui. Alors, justement.
Particulier Genevois.
Ouais, absolument, absolument. Alors, ce que je vous propose, c'est que déjà, vous nous présentiez qui êtes-vous donc, vous-même, et qu'est-ce donc ce comité unitaire Genevois ?
Alors, je m'appelle Benjamin Eby, je suis étudiant en relations internationales et je suis le vice-président des jeunes PDC à Genève. Et on a décidé de rejoindre ce comité unitaire Nobilag parce que l'union fait la force. Et je pense qu'il est très important de montrer à la population qu'en fait, ce n'est pas que quelques partis, mais c'est des groupes de la société civile aussi qui sont contre cette initiative.
Très bien, merci beaucoup. Marie-Christophe.
Alors, moi, je suis... Bon, j'ai une formation d'architecte. Je suis là comme citoyenne, bien sûr. Je suis aussi auteure et musicienne depuis de nombreuses années et enseignante. Je dis tout ça parce que c'est à tous ces titres-là que je me suis intéressée et puis émue de cette initiative. Le comité est une réunion de différents groupes, en effet, que ce soit des groupements politiques, que ce soit des fédérations et aussi des privés, pas tout à fait. Il y a le cinéma, le Scala et le City qui font partie, tout autant que la Chambre économique genevoise, tout autant que la Fédération des entreprises romandes. Et voilà, dire si cette initiative fait l'unanimité contre elle.
D'accord, donc voilà, ça veut dire qu'il y a un large consensus, non seulement dans la société, au sein de collectifs, d'associations, au sein d'institutions également. Peut-on dire que dans la société civile également, on trouve un soutien de masse, ou est-ce que là, justement, on est encore sur des situations un petit peu délicates ?
Bah, ça dépend ce que vous appelez la société civile, mais sur l'ensemble de la population, on verra le 4 mars si elle est pour ou contre cette initiative. En revanche, si on regarde par exemple Swiss Cycling, qui est là pour défendre le cyclisme, qui représente quand même un grand nombre de personnes en Suisse, elle s'est prononcée contre cette initiative parce qu'elle pense qu'elle est dangereuse pour ses intérêts. Et Swiss Cycling défend autant les cyclistes qui font ça comme sport, mais aussi ça qui utilisent ça au quotidien. Donc on a quand même un organe qui représente une grande partie de la population suisse qui pratique le vélo, qui dit non. Donc, à mon sens, elle représente aussi un bel échantillon.
D'accord.
Suisse.
On va peut-être juste rappeler que cette initiative populaire fédérale sera soumise au vote le 4 mars prochain. Donc, ça commence à être... Cette date fatidique se rapproche à grands pas. J'ai envie de vous demander, mais avant, Marie-Christophe, tu voulais nous dire quelque chose.
Je voulais dire que ce qui est frappant dans toute cette histoire autour de cette initiative, c'est que la société civile est finalement très souvent mal informée de ce que cette initiative recouvre. Et cette société doit être mieux informée, justement, pour aller après voter en connaissance de cause.
Absolument. Alors voilà, c'est le travail auquel on essaie de s'atteler aujourd'hui, et puis à d'autres reprises également. Mais alors, commençons avec ça. Cette initiative... On en avait déjà parlé lors d'un précédent entretien justement avec une représentante du SSM, du syndicat des masses médias. Nobilag, est-ce déjà là dans le libellé, n'y a-t-il pas là déjà quelque chose de frelaté puisque c'est de la redevance dont on parle et que les gens peuvent évidemment faire l'analogie, la confusion avec Bilag qui est une société de recouvrement mais qui ne représente pas finalement le cœur du sujet au bout du compte.
Alors, je rebondis tout de suite en parlant d'un, d'un article qui est sorti ce week-end dans le Temps avec les responsables de nos Bilag qui disaient finalement de Bilag, excusez-moi, de l'entreprise Bilag justement, qui disait finalement c'est une initiative qui devrait s'appeler non service public et non pas nos Bilag parce que nous on n'a rien à y voir. Et de fait c'est une initiative qui a priori dans son chapeau, si vous voulez, son intitulé commence par dire il faut arrêter de payer cette redevance chère et liberticide, je traduis. Je résume. Et puis quand on commence à vraiment lire le texte, je dis quand on commence parce que c'est très vite sous cet effet d'annonce tonitruant, on se rend compte qu'au fond ce que demandent les initiants c'est ni plus ni moins que d'avoir désormais la confédération qui ne subventionne plus aucun média sur le territoire suisse. Ça veut dire que le lien entre les médias et le public, la structure publique, sera purement et simplement annulé. Et remplacé par quoi ? C'est évidemment l'ensemble de la question.
Absolument. Benjamin, d'emblée, qu'est-ce qui choque dans une telle initiative ? Quand vous l'avez découverte et puis que vous vous êtes dit « on va faire quelque chose, on va monter un comité unitaire », c'est pas rien quand même, c'est du travail. Voilà, qu'est-ce qui vous choque d'emblée ?
Alors moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est cette histoire de l'alinéa 3, je crois, qui dit qu'il n'y a plus aucune subvention, plus aucun financement de la part de la Confédération. On se retrouve donc dans un système qui est complètement ouvert au marché. Alors nous qui parlons constamment à Genève de peut-être faire un pont en partenariat privé, d'avoir des institutions, des écoles privées si on le veut, mais quand même du public, qu'il y ait un équilibre entre les deux, on aurait à mon sens un déséquilibre complet où l'argent dicterait complètement l'information, la culture, le sport, le divertissement. Et je pense qu'il est très dangereux dans un petit pays où malheureusement avec 8 millions d'habitants, 2 millions de romans, il est impossible d'avoir un bassin de population suffisamment grand pour que la publicité puisse subventionner la chose, pour que le pay-to-view puisse subvenir suffisamment aux besoins des radios et des télévisions. Et donc, à mon sens, on risque un apport de... Il risque d'avoir une arrivée de capitaux étrangers qui veulent installer leur radio. Je pense typiquement à RT, Russia Today, qui quand même s'est implanté en France il y a quelques mois. En Suisse, la votation pourrait peut-être les intéresser. Je pense, j'ai une grand-mère italienne, donc je pense tout de suite à Berlusconi qui avait sa télévision privée et où l'information était traitée d'un point de vue à mettre en avant la politique du gouvernement qui était gérée par Berlusconi. Donc quand l'argent et seulement l'argent règle l'information, même si on me dira que la presse dépend de cela, à mon sens, si la télévision et la radio déjà ne dépendent que de l'arrivée de capitaux de grandes entreprises, c'est très dangereux.
D'accord. Alors, selon vous, si effectivement cette initiative devait passer, au-devant de quoi allons-nous ? Qu'est-ce qui va nous arriver ?
Alors, il est évident que, pour reprendre ce que disait Benjamin à l'instant, économiquement, nous ne sommes pas intéressants. Pourquoi ? Parce que simplement, nous sommes des tout petits bassins versants linguistiques et que si je suis responsable d'un média, quel qu'il soit, je veux que mon produit passe dans un maximum de foyers, etc. Donc, il est très clair que le nord du pays, la Suisse allemande, a peut-être a plus, disons, d'étoffes parce qu'ils sont plus nombreux, mais c'est infime. Ce n'est pas une réalité. Donc, première chose, il va y avoir évidemment une transformation complète, un éparpillement complet Il va y avoir un éparpillement complet, ou plutôt une polarisation complète des intérêts, disons, des médias possibles. Le sud de l'Allemagne pour la Suisse allemande, la France pour ce qui nous concerne, disons, la Suisse romande, et puis l'Italie en ce qui concerne le Tessin. La Suisse romanche, quant à elle, va être prise entre la Suisse allemande et l'Italie, mais nous allons tous disparaître. C'est aussi simple que ça. Mmh. Voilà.
Ouais, absolument. Alors, que répondez-vous aux personnes... Voilà, je vais un petit peu faire les questions auxquelles certainement vous avez été d'ores et déjà confrontés. Mais que répondez-vous aux personnes qui vont dire « Oui, mais voilà, la concurrence, c'est important, et puis c'est ça qui va créer cette saine émulation et qui va faire que finalement, eh bien, on va se retrouver avec des médias de meilleure qualité que d'antan. »
Ah, mais alors, je bondis quand j'entends des choses pareilles parce que j'ai eu la chance de suivre un cours le semestre dernier sur la sociologie politique, sur le libéralisme, le communisme, le socialisme et les idées, les idéaux libéraux qui parlent de concurrence pour dynamiser le marché, pour renforcer, ils doivent suivre quand même quelques étapes clés de base. Et il y a quand même des biais. C'est-à-dire que pas tout le monde a accès à la même information au même moment, au même endroit. Et justement, le service public est là pour informer. Donc il y a certains éléments clés du libéralisme qui ne sont pas respectés. Et donc la théorie de base est fausse. Et donc on ne peut pas se rapporter uniquement à cette théorie-là pour dire que le marché va s'auto-réguler, etc. Parce qu'il y a déjà énormes déséquilibres de base et que les critères initiaux ne sont pas respectés. Ensuite, pour rebondir sur la question précédente où vous me disiez qu'est-ce qu'il y aura si le 1er janvier 2019, si l'initiative est acceptée, je pense que les gens devront faire un choix sur est-ce que je m'informe, est-ce que je consomme de la culture, est-ce que je prends l'abonnement de journal, j'écoute de la musique, parce que si on fait le décompte, je pense que les gens payeront beaucoup plus cher, et j'ai quelques chiffres que j'avancerai plus tard dans l'émission, je pense. Et donc les gens qu'on prétendait défendre, que les initiants prétendent défendre en disant qu'on leur rend 451 francs cette année, si l'initiative a été acceptée depuis quelques années, en réalité, ces gens devront soit payer plus, soit tirer un trait sur la culture, sur du divertissement, sur du sport, ou sur de l'information, et donc ils seront péjorés dans leur qualité de vie au quotidien. Et ça m'embête qu'on ponctionne des personnes qu'on prétend défendre et qu'en réalité on instrumentalise à des fins politiques pour faire passer une initiative qui en réalité ne réjouirait que quelques personnes qui soit sont prêtes à perdre de l'argent pour avoir un canal de diffusion, comme une radio, pas de propagande, mais presque, parce que ce serait pour faire de la publicité pour soi ou son parti économique, son parti, soit avoir des télévisions qui malheureusement devraient sous-payer ses employés et qui seraient presque prêts à faire du bénévolat pour travailler, pour produire de l'information, parce que le bassin n'est pas suffisant en termes économiques.
D'accord. Marie-Christophe.
Je crois que c'est littéralement une guerre économique, c'est ce que cache cette initiative, parce que le propos, finalement, c'est une masse publicitaire à écouler. Et cette masse publicitaire à écouler, on connaît les gens, on connaît les entreprises, on connaît les personnes qui portent ça. C'est même plus des questions politiques, c'est ça qui est fascinant. C'est même plus des questions, il y a même plus de contenu autre que celui de trouver un support pour diffuser des annonceurs. Et pour avoir les coudées franches pour diffuser ces annonceurs, il s'agit d'écarter la chose publique, parce que c'est elle qui régule. Et en effet, la question du choix du citoyen va être immense, parce qu'aujourd'hui, on nous brandit le fait que les programmes sont mauvais, ou etc. Ça, c'est une autre question dont on va pouvoir parler après. Mais je veux dire, il y a quand même toute une frange de la population qui n'auront tout simplement plus accès à rien du tout. Il n'y a même pas le choix. Ça sera fini.
Et on peut dire que c'est d'autant plus important dans un pays qui est quadrilingue, où effectivement les communautés linguistiques ne sont pas évidemment égalitaires dans le sens où elles ne sont pas le même nombre, etc. etc. Alors je vais continuer dans le côté du questionnement, enfin je me mets à la place des personnes qui vous questionneraient. Je rappelle juste pour les personnes qui sont autour de nous qu'évidemment il y a des micros à disposition et que donc si des questions surgissent, n'hésitez pas, vous pouvez interroger nos invités, Marie-Christophe Ruata-Arne et Benjamin Eby, qui sont donc tous deux membres du comité unitaire non à nos bilagues. Et donc on parle de cette initiative qui donc pour laquelle nous voterons le 4 mars prochain et pour lesquelles nous sommes en train de faire un petit peu un tour de la question, de voir quels sont les enjeux, les postures et les dessins, qu'est-ce qui nous attendrait dans le cas où cette initiative passe ou pas. Et alors voilà, que répondez-vous aux personnes qui vous disent, mais alors pour la concurrence j'ai bien compris, mais qui disent moi je ne suis pas un consommateur de la télévision, je ne consomme pas, je ne paye pas. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Oh, il y a juste un principe qui tient ce pays ensemble depuis quelques années qui s'appelle la solidarité. Et puis, pour être plus technique, il y a une question aussi de péréquation financière. Je veux dire par là que nous vivons tous les uns à côté des autres, l'ensemble des cantons, parce que nous partageons un bien commun, des savoirs communs, ça c'est encore une autre question, une structure commune, des espaces publics communs. Alors, on peut toujours décider parce qu'on ne regarde pas, qu'on ne paye pas, mais si on développe cette attitude, par exemple, à l'égard de la structure hospitalière, mm-hmm. je peux dire que moi qui n'aurai plus d'enfants, je refuse de payer pour tout ce qui concerne l'obstétrique, la gynécologie. Je peux dire que je ne prends pas le train, donc je refuse. Enfin, voyez. Donc, l'histoire, le principe de je ne consomme pas, je ne paye pas, est déjà quelque chose qui met à mal beaucoup plus largement notre société que simplement ces organes, disons, enfin, d'information ou de divertissement. Mais évidemment, il n'y a pas que ça.
Mais je pense qu'il y a encore plus que ça. C'est que les gens qui disent ça, peut-être ne regardent pas la télévision. Je regarde très rarement la télévision. Mais ne se rendent pas compte des bienfaits secondaires qui découlent de cette redevance, qui découlent du fait qu'on puisse avoir des radios et des télévisions publiques, mais aussi un soutien à la culture, et que quand on traîne sur Internet et qu'on tombe sur les archives de la RTS ou quelqu'un a partagé quelque chose sur Facebook, il y a quand même quelqu'un qui a dû faire un travail derrière. Et rien n'est gratuit. Et comme je disais avant l'émission, si quelque chose est gratuit, c'est que c'est nous le produit au final, parce que c'est nous qui donnons notre temps, qui au final payons. Et je pense que on revenait à la question initiale, était quand même de si on ne paye pas, alors on ne devrait pas consommer, mais ça reste un besoin nécessaire, et que comme toute chose de service public, il y a un besoin de base. Et après, si on veut aller acheter un film, on va au cinéma ou on prend sur Swisscom TV. Si on veut écouter précisément une radio ou même une musique, on peut payer en plus. Mais je pense qu'avoir un service public de base, auquel tous peuvent consommer et profiter dans notre pays, est très important, et qu'avoir un degré zéro est impossible, parce que là on arriverait, ce serait dangereux pour tous. Et je pense qu'il y a besoin d'un support minimal d'information publique,
une prestation et de base commune,
c'est ça, et la redevance est là pour pouvoir financer ce matelas de base pour la population.
D'accord. Marie-Christophe, tu voulais compléter?
On bouillonne autour de ce dossier, ouais. Donc évidemment une question en appelle mille autres, mais c'est vrai qu'il faut voir aussi ce que la redevance couvre. Ça c'est aussi une des informations, un des fanions, si vous voulez, qui est agité par les initiants de Nobilag, c'est de dire que finalement la redevance, ça paye des émissions de télévision, rajoutons en sous-texte, mauvaise, que en plus je ne regarde pas. Alors je ne vois pas pourquoi je vais payer pour ça. Mmh. Or, cette redevance, Benjamin vient de le dire très bien, c'est pas seulement des émissions, c'est pas seulement des images, c'est pas seulement du son, parce que ça concerne aussi les radios, c'est aussi un support à toute une série de manifestations qui se déroulent à travers le pays. Et quand on parle de manifestations, c'est pas seulement des manifestations culturelles, c'est aussi des manifestations sportives, c'est des manifestations populaires, et il faut vraiment être attentif à lister l'ensemble de ces choses-là, parce que toutes ces choses-là disparaissent si on n'en parle plus. Voilà. Alors, c'est pas seulement Joséphine Ange Gardien ou Darius Rochebain, pour reprendre ces épouvantails qu'on nous brandit toujours devant le nez dans beaucoup de discours qu'on entend ici et là. C'est aussi le concert qui a eu hier à Estavayer-le-Lac. Mmh. C'est aussi la manifestation sportive qui a eu l'autre jour du côté de Nyon. Et toutes ces personnes qui travaillent, toutes ces personnes qui produisent, toutes ces personnes qui assistent, sont liées justement à ce réseau de connaissances, d'informations, de soutien. Et puis oui, aussi de création. Alors en effet, d'images, de musique, de produits originaux qui sont réutilisés après. Donc c'est énorme. C'est pas seulement mon poste et mon Netflix. Ça va bien au-delà de ça.
D'accord. Effectivement, là, on s'aperçoit que si on faisait le tour de la question de manière exhaustive, c'est rhizomatique, hein, que cette redevance toucherait par écho, évidemment, directement la SSR en premier lieu, parce que c'est effectivement c'est la régie, et puis que c'est une grosse entreprise, pourrait-on dire, en tout cas qu'elle emploie moult personnes, mais effectivement, par rhizome, eh bien, beaucoup de télé, de radio locale, comme vous l'avez dit, mais également les personnes de la création, toutes ces personnes-là seraient également touchées. Alors que répondez-vous aux personnes qui vont dire « Oui, mais finalement, moi, je me contente du net, les informations, je peux très bien y accéder de manière totalement gratuite par Internet, j'ai plus du tout besoin d'un service public. Pour moi, tout ça, c'est le vieux monde qui a encore des sursauts comme ça, mais qui finalement n'est plus opérationnel, et que donc je peux m'en passer sans aucun problème. »
Mais le contenu qui est sur le net, il y a bien quelqu'un qui a dû le créer. Donc soit c'est du bénévolat, puis on a un côté militant engagé, soit c'est un travail où ça a demandé quand même des années d'études, ça a quand même demandé avoir un point de vue critique, de pouvoir confronter les idées, les images, et proposer un contenu qui est de qualité. Et ça me fait penser un peu à cette ubérisation de la société où on considère que tout le monde peut devenir loueur d'appartements avec Airbnb, chauffeur avec Uber, ou inviter des gens à manger chez eux et qui payent. Non, c'est pas possible. Il y a quand même des gens qui ont suivi des formations. Alors oui, il y a des gens qui ont des vocations, qui ont envie de faire des choses, et Internet est génial pour ça. Vous avez parlé plus tard de l'open source, où quelqu'un qui peut produire son programme, il va pouvoir le mettre à disposition des autres ou le commercialiser s'il est vraiment très bien. Mais ça peut pas marcher à tous les niveaux comme ça. Il y a quand même un travail qui doit être fait derrière, et tout travail doit être rémunéré. On prend Spotify, par exemple, qui propose du pay-per-view. Les gens qui proposent leur contenu sur Spotify ne gagnent pratiquement rien avec Spotify. C'est vraiment... et Spotify est déficitaire chaque année. Donc, le contenu a un prix, et les entreprises qui proposent ces contenus essayent de faire toujours le prix le plus bas possible pour proposer le plus bas possible aux personnes qui le consomment. Malheureusement, on se retrouve avec des artistes qui sont sous-payés, et on est quand même dans un système de précarité économique lié à de la sous-enchère sur sous-enchère, parce qu'on, soi-disant, on devrait payer seulement ce qu'on consomme. Et à mon sens, c'est grave, parce que avoir de l'information, par exemple, je prends les informations routières quand j'ai dans sa voiture, peut-être qu'on écoute une radio qui ne touche pas à la redevance, mais pourtant, on sera très content d'apprendre qu'il y a un accident entre tel secteur et tel secteur, et que c'est la SSR qui le fait. Je prends les informations qui ont été données en Valais suite aux intempéries de la semaine dernière. S'il n'y a que des médias privés et qu'il faut être abonné à une chaîne pour savoir que la route entre Vétros et Montreux est coupée, non, il y a quand même un gros souci à se faire, je pense, à ce niveau-là, et que tout contenu a un prix, et malheureusement, Internet ne répondra pas complètement à ses besoins et ne payera pas suffisamment les créateurs de contenu.
D'accord, donc ça veut dire qu'effectivement la RTS, par exemple, la SSR, ont des mandats clairs et précis, et qu'ils doivent y répondre, et que ça permet effectivement d'avoir une information de qualité, une information pour toutes et tous.
Oui, ils ont un mandat, et en plus, il y a quand même un droit de regard, et la population a le droit de dire ce que vous avez dit là n'est pas bon. Il y a quand même, je ne sais plus le terme exact, mais quand même un sorte de comité de vérification de l'information qui disparaît avec, en plus, l'initiative dite Nobilag, plutôt, je dirais, oui à la suppression des redevances, comme on devrait vraiment l'appeler, et que sur Internet, il n'y a pas ce filtre-là. Facebook prétend pouvoir essayer de supprimer les fake news. Il n'y arrivera jamais. C'est trop difficile. Internet est immense et sans limite. Et il faut que les citoyens aient un point d'ancrage auquel ils vont pouvoir se rattacher et se dire cette information a été, même si elle n'est pas 100% fiable, elle l'est à 99,9% fiable, parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait un travail de recherche avant. Et ce travail doit être rémunéré, et on ne peut pas faire tout gratuitement sur WordPress, son blog, soi-disant, pour dire que ça est bien, ça est moins bien. Mmh.
Marie-Christophe, tu veux commenter ce qui vient d'être dit ?
Oui, j'ai envie de juste, par rapport à la gratuité d'Internet supposée, deux choses. D'abord, moi, comme enseignante, je travaille avec des supports que je trouve des fois sur Internet. Ces supports, il y a quelqu'un qui a dû tendre un micro, il y a quelqu'un qui a dû allumer une caméra, il y a quelqu'un qui a fait un montage. Voilà, il y a vraiment un travail technique. Alors ça, c'est aussi quelque chose dont on parle peu dans cette initiative, c'est que ça traverse toute une série de métiers, disons, de techniciens, de gens qui font, qui fabriquent et qui vont voilà, qui sont essentiels. Donc c'est jamais gratuit. L'autre chose, c'est que Spotify en ce moment, il y a mine de rien aux États-Unis, au milieu, enfin dans les milieux musicaux, des gens qui sont en train de s'élever sur le fait que les musiciens ne touchent rien, mais que ce n'est jamais gratuit. Il y a toujours des gens qui se mettent des millions dans la poche quelque part par des recettes publicitaires. Justement, on en revient toujours au même propos, c'est-à-dire que ce qu'on demande ni plus ni moins, c'est que la Suisse se mette au diapason de toute une série de lieux d'État où il n'y a aucun contrôle public, aucun contrôle étatique, et finalement le libre marché qui profite à quelques, disons, entités, pour ne pas dire personnes, soit le seul jauge, la seule jauge de la qualité de l'information, de la qualité de la création, de la diffusion de cette information. Voilà.
D'accord. Je me tourne vers les personnes qui sont autour de nous. Si vous souhaitez intervenir ou poser des questions, vous n'hésitez pas. Vous nous faites un petit signe, vous prenez un micro, c'est là pour ça. Voilà, que vous sachiez. Il y a aussi des sujets sur lesquels on n'est pas encore arrivé et sur lesquels j'aimerais vous entendre. Pour moi, il y a également quelque chose qui est fondamental dans le travail que font les médias, et notamment la RTS et la SSR, c'est l'archivage, tout simplement. C'est le fait de documenter par l'information des choses qui ont cours. Voilà, ça peut être des moments de manifestation, pourquoi pas. Là, on est dans un moment un petit peu trouble, hein, où on voit que le service public est quand même durement touché, enfin qu'il y a une volonté de mettre au pas ces choses-là. Eh bien, effectivement, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera intéressant de pouvoir se reposer là-dessus. Et puis, ben, toutes ces archives, il faut bien les conserver. Et là, il y a un enjeu également, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces archives, comment est-ce qu'on va les conserver, qui le ferait dans le cas où, effectivement, l'SSR ne le ferait plus.
Alors, l'archive est, par définition, le travail d'un service public, toutes les archives, et ce d'autant plus que depuis le moment où l'ordinateur est arrivé dans nos vies, pas seulement Internet, mais l'ordinateur, le volume d'archives a décuplé. C'est un problème que tous les archivistes connaissent et auquel ils doivent tous faire face. Pour traiter des archives numériques, d'images, de textes, etc., il faut des professionnels qui sont là à 100%. Sinon, il se passe ce qui se passe dans d'autres pays sur ce problème spécifique. Il y a une urgence, là aussi, on aura malheureusement l'occasion d'en parler ultérieurement, c'est que pour des raisons d'économie, on est en train, dans d'autres lieux, de réduire les équipes d'archivage, d'archivistes, et de faire des tris a priori. Ce qui, au sens de l'histoire du monde, est une véritable catastrophe. Voilà. Alors, ce n'est pas seulement les archives de nos archives, les archives de la RTS, les archives de la SSR, mais c'est aussi ça. Et il faut absolument être attentif à ce chapitre-là, dont on parle en effet pas suffisamment aussi dans cette votation, mais qui fait partie, alors qui disparaîtrait totalement, évidemment, avec si cette initiative était acceptée.
Mmh. Benjamin, tu veux.
Mais par rapport aux archives aussi, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je pourrais vous répondre que tout le monde peut archiver chez soi sur un disque dur les milliers de photos qu'il a, ses photos de vacances, les films de mariage, etc., des événements qu'il organise, parce que tout le monde a un smartphone pour filmer le dernier concert de Bastien Baker, par exemple. Mais je pense que l'archivage est très important et que c'est un des mandats de la SSR, parce qu'il permet de conserver une image, une information, un son qui n'a pas été mis en scène comme on le fait tous sur les réseaux sociaux. Et vu qu'un article du Temps le disait très bien il y a quelques mois, qui s'appelait « Vous mentez et Google le sait », et qui disait mais qu'en fait, au final, on ment tous à Google, on ment tous à Internet parce qu'on se met tous en scène, et que les archives sont quand même un moyen très utile et très pratique pour conserver une image un peu plus factuelle de ce que t'es l'année 2017, où quand je regarde déjà maintenant il y a 10 ans, l'année 2007, pour moi, ça paraît loin et proche à la fois, et pourtant on avait déjà plein de médias, on avait plein de moyens de conserver, et pourtant il faut faire attention à ce que les archives perdurent, parce qu'il y a une époque on aurait pu nous dire, pour des questions technologiques, les gens avaient peu de photos, les gens avaient peu de films, et que les archives étaient très bien pour pouvoir se remémorer ces moments-là, comme le font mes parents actuellement à revoir les années 70 dans les archives de la RTS. Mais je pense que les archives privées n'ont pas la même valeur que les archives d'un service public parce qu'elles couvrent toute la Suisse, elles couvrent du Val de Travers au Tessin en passant par Zurich, et qu'il n'y a pas un endroit en Suisse qui a été oublié, et que si on a encore des images du carnaval des Volaines dans les années 70, c'est parce qu'il y avait une équipe de télévision. Quand j'ai les images de Wangen en 1956 où il monte avec les chevaux pour tirer les luges qui comprennent les caméras, c'est un travail de service public. Et si on peut faire une comparaison entre cette année et il y a près de 50 ans, c'est parce qu'on a la chance d'avoir un service public efficace, et que si on s'en remet seulement au privé, qui peut être un jour l'entreprise qui rediffuse notre possible émission de télévision de ski par exemple, est rachetée par un autre groupe, on n'a pas la certitude que le nouveau groupe de fusion conserve ces images, et elles sont quand même importantes pour l'histoire d'un pays, pour l'histoire du monde en général.
Et a posteriori, pour les études qu'on y ferait, d'historiens, de géographes, d'urbanistes, avoir des informations sur les tunnels et le percement de certains tunnels, peut-être que ça n'intéresserait pas la grande quantité des gens, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas une information cruciale à un certain moment et pour certaines choses, par ailleurs. Donc, effectivement. Alors, vous qui, donc, au comité unitaire pour le non à Nobilag, êtes, j'imagine, souvent sollicité, en tout cas souvent dans la rue, comment est-ce que vous avez observé ces derniers temps, maintenant que nous arrivons doucement à l'échéance, hein, est-ce que vous avez déjà senti une évolution, un fléchissement des opinions? Est-ce que les gens, peu à peu, passent de l'information « Ah, Nobilag, mais Bilag, c'est pas bien, donc je veux pas en entendre parler. Ah non, c'est la redevance, je vois bien qu'il y a d'autres enjeux. » Est-ce qu'on voit que d'autres, qu'une réflexion à court, et que du coup un esprit critique prend le dessus, et que du coup, eh bien, voilà, les opinions, changent ou évoluent, pour le moins?
Alors, vous avez vu les sondages récents qui ont un peu, qui sont, on va dire, positifs en ce qui nous concerne. Mais il faut rester sur le pont. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, cette information, enfin, même le nom de l'initiative est un nom qui porte à confusion. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas l'information suffisante pour savoir de quoi il s'agit. Une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque personne qui est mise au courant, disons, des tenants et des aboutissants réels de cette initiative, la plupart du temps, change d'opinion. Après, il y a encore un pourcentage de personnes qui sont favorables à cette initiative, mais on a encore du temps pour les faire changer d'avis.
Mais certainement.
Alors, personnellement, j'ai commencé la campagne sur les réseaux sociaux début décembre. J'ai souvenir que quand le comité pour cette initiative a commencé sur les réseaux sociaux, j'ai directement contre-attaqué parce que je ne voulais pas qu'il monopolise l'espace Twitter en particulier ou sur Facebook. Et à cette époque-là, sont sortis les deux premiers sondages qui donnaient l'initiative gagnante. Et s'en est suivi quand même un bon mois et demi depuis mi-décembre jusqu'à maintenant de prise de conscience, je pense, de la part de la population, et aussi où la SSR a informé, la RTS a fait des émissions sur le téléjournal, par exemple, ils ont donné des faits, ils n'ont pas pris parti parce que malheureusement par rapport à la votation ils ne peuvent pas, mais ils ont donné des faits sur un peu plus de transparence quand même par rapport à leur service. Et elle a quand même aussi cette initiative a posé des questions sur quelle doit être la forme de la SSR. Gilles Marchand s'est exprimé, mais je pense qu'on est tranquillement en train d'arriver, et plutôt que prévu plutôt que je n'avais prévu, à un moment de polarisation, c'est-à-dire que les gens sont sûrs de leur vote et ne vont pas le changer, parce que il y a un tel débat sur Nobilag depuis fin décembre, alors qu'on ne vote que dans un mois et demi, ce qui est quand même très étonnant, et que les gens sont de plus en plus difficile à convaincre à changer d'avis, parce que soit c'est clair pour eux, c'est non à Bilag ou non au service public parce qu'ils considèrent que ce n'est pas nécessaire, soit ils ont compris que cette initiative est dangereuse pour le service public en général, pour les médias et la télé. Donc il faut continuer à être vigilant et à continuer à tracter, à informer comme nous le faisons aujourd'hui. Mais je pense que le moment de polarisation qu'on peut observer dans toute votation est en train d'arriver beaucoup plus rapidement que prévu.
Okay. Voilà.
D'accord, merci Benjamin. Oui, ma question.
Je voulais dire que, alors je n'ai pas les connaissances techniques de Benjamin, mais ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, cette campagne, elle a commencé il y a une année avec les attaques qui ont été faites à Option Musique, à Zurich, je ne me rappelle plus le nom des programmes suisses allemands, mais il y a une année déjà, j'avais été à Berne rencontrer Nanterno pour parler de ces questions-là, et c'était très littéralement le cheval de Troie qui annonçait toute cette bagarre à laquelle on assiste aujourd'hui. Mmh. Donc j'adore l'idée que la polarisation est faite. Moi, je vais rester inquiète jusqu'au 4 mars à 16h, et jusqu'au dernier moment, j'aurais envie de parler encore de cette initiative, parce qu'elle est vraiment dangereuse.
Alors, petite anecdote quand même, j'ai mon anniversaire le 3 mars, donc le 3 mars au soir, je suis sûr de faire la fête, je suis sûr encore de parler de nos bilags, et moi, tout ce que je veux pas, c'est me réveiller avec une double gueule de bois, entre guillemets, parce que j'ai eu l'occasion de parler beaucoup avec des jeunes de cette initiative-là, soi-disant ces jeunes qui ne consomment plus la radio, qui ne consomment plus la télé, et je suis étonné comment ils soutiennent quand même au final. Alors certes, je suis peut-être coincé dans mon milieu universitaire de personnes qui sont intéressées, qui ont de l'intérêt pour de nombreux médias, le sport en général, mais je suis quand même surpris du soutien qu'a à Genève cette initiative. Ben,
le soutien au
refus de cette initiative. Voilà. Parce que j'aurais pensé que les jeunes voyaient différemment la chose. Et j'en suis très content de voir qu'en fait, ils sont quand même attachés à avoir Federer sur la RTS, avoir Beat Feuz sur la RTS2. Et je pense que c'est un signe important à envoyer au comité qui était pour l'initiative, dont Nanterno faisait partie, de montrer qu'en fait, non, les jeunes, et le dernier sondage de la SSR le montrait, 60% des jeunes interrogés refusaient cette initiative. Et donc, on n'est pas dans un système qui est obsolète, et on a encore un mois pour convaincre les gens. Je pense en particulier aux personnes âgées, qui souvent ne voient que le mot bilag. Je pense que les jeunes qui lisent beaucoup plus les réseaux sociaux, qui ont déjà fait leur opinion là-dessus, mais que maintenant, ce sont les personnes âgées qui dépendent beaucoup de ça, qui pour certaines ne payent pas bilag parce qu'elles touchent des prestations complémentaires, mmh, ou sont en OMS. Ces personnes-là, typiquement les personnes qui touchent les prestations complémentaires, perdraient le fait qu'elles ne doivent pas payer la redevance et sans doute se retrouveraient à payer des programmes télévision en particulier qui leur coûteraient très cher pour leur souvent retraite qui est moins qu'un salaire.
Et, mmh, et on sait quelle place peut prendre la télévision pour le meilleur et pour le pire, mais pour évidemment le meilleur également, mmh, chez des personnes, ouais, qui sont peut-être un peu moins actives ou en tout cas un petit peu plus à la maison. J'avais envie de vous demander, vous y avez déjà répondu en filigrane, mais je voulais peut-être que vous précisiez par rapport à ça, est-ce qu'on observe les mêmes types de clivages ou quel type de clivage est-ce qu'on observe dans les intentions de vote? Est-ce que ce sont justement des clivages géographiques, hein, la Suisse romande, le Rochetigraben, le Tessin, etc., des clivages linguistiques du coup qui colleraient de la même manière, des clivages générationnels, vous l'avez déjà un petit peu dit, hein, tu as dit Benjamin que finalement chez les jeunes là on pouvait s'attendre qu'il y ait peut-être que les gens soient un peu plus rétifs à cela, ben, finalement pas tant que ça. Et également, y a-t-il des clivages politiques où j'ai l'impression quand même la plupart des partis ont pris position pour c'est-à-dire pour le refus, je veux dire.
Mais, alors, juste, c'est très intéressant. Chaque fois qu'on bute sur le nom de cette initiative et sur ce qu'il faut y faire voter, je pense à une histoire que m'a racontée une personne que je connais qui travaille dans l'audiovisuel, qui me dit, ah, mais je rencontre dans la rue trois dames d'un âge certain qui me dit, ah, mais nous, on est avec les copines, on va voter pour vous, on adore le travail que vous faites, c'est génial, on vous écoute tous les matins, c'est vraiment... On va voter oui. Mais il dit, mais vous allez voter oui à quoi? Bah oui, oui à vous, quoi. Oui, au fait que vous demeuriez en place, que vous continuiez à bosser. Il dit, bah, alors il ne faut pas voter oui, il faut voter non. Il dit, comment il faut... Enfin, elle ne comprenait pas. Alors ça, c'est quelque chose, je pense, il y a un effort là-dessus qu'on va devoir continuer à faire peut-être justement auprès de, des populations qui sont moins en lien avec les réseaux sociaux, il faut voter non, parce qu'on est pour le service public. Et mais c'est,
non mais
c'est
oui, compliqué. Tu fais très bien de le préciser. Il y a des précédents où des choses ont été...
Et il y a des précédents, ouais, exactement. Donc,
c'est bien de le rappeler.
Ce qui est amusant, quand vous parlez de polarisation, j'avais une question universitaire l'an passé qui disait « Est-ce que la votation sur la sortie du nucléaire montre clairement un clivage gauche-droite ?» J'ai répondu non, la réponse était oui selon le professeur, et j'étais pas du tout d'accord parce que je considérais que c'était plutôt un clivage générationnel, les jeunes qui disaient oui à la sortie du nucléaire et les vieux, pardon, mais les personnes plus âgées disaient plutôt
les
non.
Aînés.
Voilà, non, mais même pas les aînés, je disais dès qu'on a 40 ans et qu'on est dans la vie active, on se dit mais c'est une belle technologie. Pour moi, cette initiative est différente parce que le comité unitaire à Genève regroupe quand même du PLR à la gauche. Ce qui est quand même étonnant. Alors, pas les jeunes PLR, parce qu'ils ont lancé l'initiative, que s'ils nous écoutent sur Libre Radio, je les salue, mais je ne pense pas qu'il y ait un même clivage. Je pense que quand je vois que je vais voter sans doute comme Jean-Luc Adore sur la question, je me dis que ça a quand même un panel très très large de la population, des représentants de la population, j'allais dire des personnes élues, qui sont contre ce texte. Et je pense que les minorités linguistiques vont être d'autant plus contre ce texte. Après, est-ce qu'il y a un profil type de la personne qui va dire oui au texte ? Je ne pense pas. Je pense que c'est seulement des réflexions personnelles de se dire ben, est-ce que je veux de ça ou pas ? Ou malheureusement, la question de l'information sur la question qui font la différence. Oui.
Mais je pense qu'il y a des groupes, disons, d'intérêts divers qui sont en train de rejoindre le camp du non à Nobilag, parce que petit à petit, tout le monde se rend compte des effets induits directs, si cette initiative malheureusement passerait, hein, sur nos médias, sur notre information, etc., etc. Mais il y a plein d'autres systèmes en Suisse qui fonctionnent de la même manière. Et là, je pense par exemple aux agriculteurs bio, aux agriculteurs de montagne, qui fonctionnent aussi avec la solidarité nationale, pour lesquels la péréquation financière veut dire vraiment quelque chose, et qui se rendent compte que c'est tout un modèle sociétal qu'on est en train de mettre à mal, qu'on est en train de détruire, et puis que les prochains sur la liste, c'est eux. Parce que finalement, on n'a pas besoin, voyez, pourquoi ne pas mettre en concurrence les pommes de terre bio, etc. Donc, par exemple, on reçoit des soutiens de l'agriculture suisse aujourd'hui contre Nobilag, parce qu'on se rend compte que le système du service public a déjà été sacrément mis à mal ces derniers temps en Suisse. Et je suis désolée, mais vraiment pas pour le mieux. Quoi. Voilà.
Voudrais-tu, parce que ça, il me semble qu'il y a une valeur qui est la cheville ouvrière de ce qui se passe en Suisse, peut-être expliquer ce que signifie la péréquation financière.
Alors,
parce que c'est vraiment important que tout le monde qui nous écoute soit bien au courant de ce que cela signifie.
Alors, je vais prendre...
Alors, c'est Benjamin qui s'y colle.
Je vais prendre la parole là-dessus, mais la péréquation financière, c'est quand même... un système de solidarité entre cantons, entre régions linguistiques dans ce cas-là, qui fait qu'en fait, si les romans payent en réalité 23% de la part totale de la SSR, ils en touchent 33. C'est-à-dire que pour chaque franc mis à la SSR, il en revient un 30 pour de l'information. Il en va de même pour le Tessin qui, lui, ne met que, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 12-15% et en touche beaucoup plus. Parce que c'est une région qui est plus petite et donc a besoin plus d'un plus grand soutien financier. Pareil pour la région, pour les programmes en Romanche. Et donc, on se base vraiment sur un système de solidarité où on considère que, vu que la Suisse allemande a une capacité de personnes beaucoup plus élevée, on peut proposer un service public tout à fait convenable qui convient à la majorité de la population en termes utilitaristes et qu'on ne va pas utiliser tout le budget. Et ce budget excédent va pouvoir être mis dans des branches plus régionales qui servent à soutenir une minorité linguistique qui, elle, n'aurait pas l'occasion d'avoir un service public du même niveau que les Suisses allemands. Et par péréquation, on arrive quand même à avoir que sur l'ensemble de la Suisse, chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il vit, en montagne, en plaine, en campagne, ait un accès à l'information, à la télévision qui soit égal, malgré les différences de notre pays entre langues sur des topologiques urbaines, ruraux.
Et là, on voit bien les enjeux de cohésion sociale que cela encourage, que cela entretient. Donc là également, en cas de l'initiative Nobilag, eh bien, tout ça eh bien, serait complètement mis à mal et s'effondrerait.
Et s'effondrerait et serait remplacé par des structures privées, donc des structures avec une nécessité de bénéfices, et de bénéfices à court terme, de bénéfices à long terme. Donc toute une vision d'une société absolument différente, parce que quand on commence à devoir faire du bénéfice, le principe même de l'objet sur lequel on travaille change. On a quand même un exemple épouvantable en Suisse, c'est la presse écrite. À partir des années 90, de l'arrivée des fameuses audits et de structures, disons, qui ont demandé à la presse de faire des bénéfices, on n'a plus parlé contenu et on a parlé support et annonceur.
Et surtout pour la presse, je rappelle que cette semaine, à l'ATS, il y a quand même des journalistes qui ont perdu leur travail.
Absolument.
Et qu'on est quand même dans une situation où, soi-disant, les gens qui pourront s'informer s'ils veulent consommer de la musique sur Internet, du film sur leur télévision, pay-to-view, et qui prendraient un abonnement de journal, la presse en Suisse, et en particulier en Suisse romande, ne va pas très bien. On a le siège de la Tribune de Genève, de la Julie, qui partirait à Lausanne. Oui. L'ATS qui dégraisse cette semaine avec la grève qui a eu lieu mardi à Berne. Il n'y a que 6 dépêches qui sont sorties sur l'ensemble de la journée des locaux de l'ATS à Berne, contre des centaines habituellement. Oui. Et on voit que non, le système de la presse suisse actuellement vit aussi une crise et que il est géré uniquement par un service qui est privé. Mmh. Donc c'est quand même... il faut soutenir la presse en Suisse. La redevance soutient la presse en Suisse parce qu'une infime partie de la redevance rentre pour aider l'envoi par la poste des journaux au domicile. Et donc cette initiative met en danger autant la presse que la télévision, et que soi-disant on pourra consommer tout autant de temps de La Cité ou de Tribune de Genève que l'on veut. Non, il y a quand même aussi un danger pour ces médias qui sont sur papier certes, mais qui dépendent un tout petit peu de la redevance et dont le système actuellement dans sa globalité est quand même fragile.
Absolument. On est en train de préparer justement un billet concernant l'ATS, l'Agence télégraphique suisse, qui effectivement est touchée en ce moment. Et notamment là aussi, on a un problème avec justement, du coup, une non-péréquation linguistique, dans le sens où c'est les rédactions francophones, entre autres, qui sont plus touchées que justement les rédactions germanophones.
Ta média est un grand groupe privé. Voilà,
Média est CQFD.
Exactement, ouais, tout à fait. Alors dites-moi, vous êtes donc du comité unitaire non à Nobilag. Quelles sont vos prochaines échéances? Qu'avez-vous prévu pour continuer d'informer les personnes? Puisque, comme vous l'avez dit, dans un mois et demi, on vote, c'est le 4 mars. D'ici là, il va falloir encore convaincre, ressasser des choses, redire les choses, expliquer, préciser peut-être les choses.
Alors, je dois vous avouer que ces dernières semaines, j'étais en plein examen universitaire.
Il y a un temps pour tout.
Et donc, je me suis concentré sur les réseaux sociaux. Et jusqu'au 4 mars, je pense que je vais continuer sur les réseaux sociaux et dans la rue. Il n'y a pas d'autre moyen pour rencontrer la population. Il y a les élections cantonales le 15 avril, mais la première échéance, c'est le 4 mars. On ne commence pas une votation, plutôt une élection, alors qu'il y a un sujet aussi bouillant sur le grill qui est Nobilag. Et je pense qu'il y a aussi... les prochaines échéances, c'est aussi le plan financier 2021, parce que faut rappeler que le 4 mars, on vote sur Nobilag, mais on vote aussi sur le plan financier 2021. Et il y en a un qui est en train d'éclipser complètement le second, et qu'en fait, si les gens disent non et non, en fait, on se trouve dans une situation très compliquée. Donc je pense qu'il faut continuer sur le trottoir et sur les réseaux sociaux à informer, de dire non à Nobilag, et aussi d'informer sur le deuxième sujet fédéral qui est aussi très important.
Tout à fait.
Alors, il y a il y a vraiment le travail du porte-à-porte. Ce comité a un droit de cité aussi dans les médias, et Dieu merci. Et il y a par ailleurs des manifestations, j'ai envie de dire transversales, parce que nous représentons le canton, mais à cause des tenants et des aboutissants de cette initiative, nous sommes évidemment en lien avec le restant de la Suisse. Et si vous me permettez, j'aimerais parler d'un moment très important qui aura lieu mardi prochain à 18h à Berne, où tout le monde est attendu. tout le monde est attendu sur la place fédérale contre Nobilac. C'est un rassemblement qui s'intitule pour l'extinction des lumières, parce que évidemment symboliquement
c'est contre l'extinction des lumières, parce qu'on veut pas que les immeubles de la RTS ou la SSR
mais c'est contre l'extinction des lumières. Mais c'est intéressant parce que il y a encore une fois quoi, c'est pas seulement les lumières disons de la RTS, c'est pas seulement la télévision, c'est aussi toutes les lumières, c'est aussi toutes les personnes, c'est aussi nous tous, quoi. Il faut pas qu'on plonge ce pays dans la nuit, s'il vous plaît. Et je trouvais que c'est un très joli titre, contre l'extinction des lumières, excusez-moi. Donc, mardi 30 janvier à 18h à Berne, sur la place fédérale, une grande manifestation. Je crois qu'il y a des trains qui vont être pleins au départ de Genève, mais pas seulement, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient de toute la Suisse pour cette rencontre.
Très bien. Une question, oui. Alors, veux-tu t'approcher ou on t'amène un micro? C'est comme tu préfères. Bom, bom. Ouais, voilà, super. Alors, Sarah, tu le ferais toi? Super. On arrive. Hop.
Bonjour.
Voilà. Bonjour, est-ce que tu voudrais te présenter?
Non, pas tellement.
Alors, vas-y, avec ta question directe.
Dans le sens des droits et des obligations, en Suisse, je crois qu'on a l'obligation de se tenir informé. Maintenant, dans les droits fondamentaux, comme dans les droits de l'homme, on a le droit à la culture. Alors, dans les droits fondamentaux, on n'aurait pas à payer le droit à la culture. Et comme on a l'obligation de s'informer, on n'aurait pas à payer l'information non plus. De plus, dans ce qui nous est proposé dans les médias, c'est pas ce qu'on a décidé, c'est pas démocratique. Ils nous proposent des choses. Alors le petit joke, ce serait ceux qui zappent le plus à la télé auraient le moins à payer de Bilac, parce que ça ne les intéresse pas. Ok? Mais moi, je pense que ça risque constitutionnellement d'être déclaré un no-bilag, que ça risque d'être gratuit et pris en charge par la Confédération comme un droit. Et ça remplit aussi les obligations qu'on a. Maintenant, moi, le problème, le petit truc à côté, c'est que j'espère qu'on n'aurait pas de nouveau un ministère de l'Information, parce que ça a été interdit en Suisse, ou des renseignements, les renseignements de la Confédération, qui s'amuseraient à limiter les libertés de la presse ou à faire de la désinformation quant à ce qui se passe vraiment, et etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Merci pour la question. Ouais. Merci beaucoup.
Alors,
qui veut répondre?
Mais pour la question d'avoir une information et une culture privée, elle se pose, elle est nécessaire. Mais il faut, pour comprendre pourquoi est-ce que Bilac est là et pourquoi Séraphé, qui prendra le relais le 1er janvier 2019, parce que Bilac n'a plus le mandat, Bilac existe parce que justement on veut séparer l'argent qu'on paye à la Confédération par nos impôts et la redevance qu'encaisse cette entreprise. C'est pour marquer une séparation entre le pouvoir politique à Berne, pour considérer qu'il n'influence pas et que c'est pas lui qui fournit l'argent ou qui ne le fournit pas à l'information. Et donc l'entreprise Bilac, qui est là pour financer la SSR, elle est vraiment dans un souci d'honnêteté et de clarté de l'information, et que ce soit pas, même si notre gouvernement est représentatif de la population avec des gens de gauche comme de droite, c'est pour éviter justement qu'on taxe la télévision de télévision pro d'un parti ou pro de l'autre, et que de toute façon, si ça passait par l'impôt directement, ce que ne prévoit pas du tout cette initiative, mais que si on faisait passer la télévision publique par l'impôt, alors des gens critiqueraient immédiatement en disant qu'on prélève sous nos impôts la télévision, la radio, et qu'elle serait orientée par le gouvernement.
D'accord. Oui, une question? Oui, alors voici pour vous. Si vous voulez vous présenter, vous le faites. Sinon, vous allez directement.
Je n'ai pas envie de me présenter. Mais je veux juste dire mon idée. Oui. J'ai l'impression que lorsqu'on ramène tout trop à l'économie, on ne trouve pas la solution. Voilà. Parce que ça devient une obsession, l'économie, et du coup, les idées qui vraiment résoudraient les problèmes nous échappent, parce qu'on est trop concentré sur l'argent.
Mmh. D'accord. Voilà. Ouais. Qu'avez-vous envie de répondre à ça?
Bah,
c'est vrai que des fois, on est capté comme ça.
Ouais,
par,
ouais.
Mais je souscris, je souscris absolument à ce constat qui est un constat, très, très large. Moi, il y a une chose qui me frappe, ça rejoint deux, trois choses qu'on a dites précédemment sur le rôle, disons, d'un média et sur l'obligation de culture. J'enseigne dans des centres professionnels et un des cours que je donne est lié à l'histoire, disons, de la ville. Et j'ai des élèves qui ont dit, élèves, on ne dit pas étudiants à cet âge-là, il paraît, qui ont 16 ans, 15-16 ans. Et pour eux, on est à Genève, donc on va voir de quoi je veux parler, pour eux, la ceinture fasciste est aussi proche ou aussi loin que le mur de Berlin. Ça veut dire que quand je leur parle du mur de Berlin ou quand je leur parle de James Fazi, pour eux, c'est la même chose. C'est aussi loin. Ça n'a pas plus de réalité. Alors, c'est vertigineux parce que ça fait pas longtemps que j'enseigne. Hein. J'ai d'autres métiers. Je suis arrivée dans l'enseignement. Voilà, c'est un enseignement professionnel, donc c'est pas une vocation comme ça. Mais cette attitude est de plus en plus fréquente. Quoi. Et je pense que c'est... Oui, oui, mais parmi mes élèves. Oui. Et je veux dire, cette façon de regarder le passé, voilà. Alors, on est là pour ça. Je pense que c'est des moments comme ça, c'est des moments de la vie où on s'intéresse aux choses, où on est plus disponible, etc. Mais c'est essentiel d'avoir toujours quelque chose en trop, de ne pas être uniquement utile, de ne pas avoir une attitude d'expert, de ne pas penser que de façon rétrécie, juste à ce qui va être nécessaire pour produire pour cette année, ce qui va être utile. Et au contraire, toujours avoir une marge. Et le superflu n'est pas nécessaire, il est essentiel. Quoi. Voilà.
Vous parliez d'histoire et vous m'avez fait quand même un peu sourire à dire que James Fazi et le mur de Berlin, pour eux, c'est la même chose.
Ah oui,
confirme. Et que je lisais récemment, dans la presse française cette fois-ci, qu'on fêtait les 50 ans de mai 68. Et pour moi, qui suis né dans les années 90, mai 68 est extrêmement loin, 50 ans. Mais il faut se dire que quand il y avait mai 68 et qu'on avait 20 ans et qu'on montait aux barricades, l'armistice de 1918 était aussi il y a 50 ans. Et pourtant, ça paraissait extrêmement loin. Et donc, il y a toute une question de mise à l'échelle. Et c'est vrai que pour les étudiants, ça peut paraître un peu compliqué, mais que finalement, le temps se comprime à la fin. Pour revenir
sur ce
qu'a dit madame, sur si on rapporte tout à l'économie, vous me faites penser au libéral Locke qui disait que de nature tout homme est bon et c'est pour ça que le libéralisme marche, c'est parce qu'en fait c'est que des échanges gagnants. Et je ne pense pas, vu comment on regarde, comment les gens se comportent toujours à essayer d'avoir leurs voisins, etc., je ne pense pas qu'on puisse dire que l'homme est fondamentalement bon, je ne veux pas dire qu'il est fondamentalement mauvais, comme dirait Hobbes, si on pense un peu à la philosophie libérale ou hobbesienne, mais je pense que oui, si on regarde que les chiffres, si on regarde que la rentabilité, on perd le côté humain, on perd des valeurs, la réflexion des valeurs qui nous sont chères et qu'on perdrait et qu'un ordinateur peut faire de l'économie. Un ordinateur a beaucoup de peine ou ne peut pas faire de la culture, il ne peut pas créer de l'information, savoir discerner le vrai, le faux. On regarde avec les algorithmes qui sont censés savoir détecter les fake news, l'ordinateur ne le fait pas. Et donc l'économie, non, vous avez raison, ne peut pas tout régler et qu'on en perd, on perd des éléments très essentiels. Et c'est pour moi l'initiative-là, vu qu'elle se base uniquement sur des arguments économiques, soi-disant pour le bienfait de la population, est complètement faussée.
Et ce type de discussion peut-être n'aurait plus cours dès lors que sans un service public qui serait justement favorable à ce type de discussion, au temps de laisser du temps au temps justement, de pouvoir avoir ce type de débat. On le rappelle, hein, donc la prochaine échéance, parce qu'on va arriver doucement au terme de la discussion, donc si jamais une question émergera encore, eh bien c'est le moment parce qu'il ne nous reste que quelques minutes, mais j'allais vous interroger sur comment est-ce qu'on peut trouver l'information. Selon vous, y a-t-il un site, une page Facebook, des choses comme ça? Moi, j'allais citer évidemment le site du SSM, hein, donc www.ssm-site.ch, où là, donc c'est le syndicat des Suisses des masses médias, où là, on trouve bien entendu l'annonce du 30 janvier, dont on le rappelle, hein, 18h, rendez-vous sur la place fédérale à Berne, pour ne pas éteindre les lumières de la RTS, de la SSR. Alors voilà, y a-t-il des ressources que vous pourriez citer? Il y a une page Facebook.
Alors oui, il y a une page Facebook du comité unitaire Nobilac Genève. Mm-hmm. pouvez la trouver. Bien sûr, si vous voulez regarder, trouver d'autres sources d'informations contre cette votation, vous pouvez mettre le hashtag #NonNobilag en un mot. Vous trouverez toute la liste des publications qui se réfèrent contre cette votation. Vous trouverez d'autres comités, vous verrez peut-être que des entreprises, des rassemblements d'entreprises sont contre cette initiative et que vous n'aviez pas idée que, par exemple, la FER ou la CCIG étaient contre cette initiative. Et donc, ça permet de voir un résumé global des dernières publications contre cette initiative sur les réseaux sociaux.
Alors, et si vous avez juste un ordinateur et si vous faites www.ssa, la Société Suisse des Auteurs, qui est aussi très active contre Nobilag, a aussi tout un matériel à disposition pour, disons, informer et aussi diffuser l'information contre Nobilag.
Et si vous voulez plus d'informations sur le Rassemblement unitaire contre l'extinction des Lumières, vous pouvez sur le site resistencia.ch et vous trouverez toutes les informations sur l'événement.
Très bien. Je vous remercie beaucoup. Encore une, je me tourne vers les personnes qui sont autour de moi. Si une question surgit ou si on s'arrête là, pour le moment, je crois que ça va. Je crois qu'on a été relativement exhaustif tout de même.
J'espère.
En tout cas, ouais, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Donc, Marie-Christophe Ruata-Arne et Benjamin Eby, donc tous deux membres du comité unitaire non à Nobilag.
Merci pour l'invitation.
Mais oui, avec beaucoup de plaisir. Et puis, courage pour la suite des événements. Là, bah, on est à un mois et demi. Donc, effectivement, j'imagine que vous allez redoubler d'activité. Les prochains moments, un stand à venir ou des
interventions? Il y avait aujourd'hui à la jonction, je crois, ou à la Servette, entre 10h et midi. Mais sinon, ce sera ponctuel, toujours dans la semaine, pendant les pauses de midi. On peut trouver des stands un peu partout en ville de Genève. Si on veut discuter, si on a des questions, si on veut s'informer sur le sujet, vous pouvez trouver sans autre des stands. Il y en aura forcément à proximité dans la ville.
Très bien. Et puis nous, bien sûr, on s'associe à votre... On relaye et on s'associe à ce que vous dites. Pour nous, c'est effectivement extrêmement important qu'on puisse continuer de manière d'avoir ces médias publics de qualité pour pouvoir effectivement créer de la réflexion, créer du sens ensemble, créer de la cohésion sociale, créer également de la critique. C'est important. Et puis pour citer Hobbes, hein, le Léviathan, eh bien nous, on n'en veut pas. On va dépasser ça. Et puis j'espère que le 4 mars, tout le monde, eh bien, ira voter. C'est important, on va le rappeler, parce qu'effectivement, ici, on a une population qui est un petit peu rétive par rapport à ça, puis un petit peu critique par rapport à ça. Et nous, on pense qu'effectivement, à cette occasion-là, eh bien, c'est important d'aller mettre ce bulletin dans l'urne. Voilà, merci beaucoup à vous.
Merci.
Bon week-end et à bientôt.
À bientôt, merci.
Voilà, nous, on fait une petite pause musicale et puis on revient pour la suite des opérations. Nous sommes en direct depuis le pavillon bleu, à l'occasion de Nemesis, le peuple versus le WEF. Nous allons parler un peu du World Economic Forum également et d'autres sujets. Ça, c'est pour tout à l'heure. D'ici là, un petit peu de musique. C'est parti.
Gazteon zapalkuntza uka ezina da gartzela daien bide tresna bakarra zeleku gutxi dagon askatasunantzat ta zenbat berriz errepresioaren zat. Milaka gazte epaituak izan dira herria hiltzen ez usteagatik alare gure borrokak jarraituko du beraien horma haiek kolpatu arte. Posatutako ereduei uko eginez gaztegunean euskal gaztedi alternatiboa sortuz da indartuz gaztegunean independentzia eta sozialismoa zabalduz gaztegunean herrizar bat bide berri bat lotuz da errotuz gaztegunean. Autogestionatuak
herri bat dugu. Zergaitik ez da gaztetxe bat. Inposatutako ereduei uko ginez gaztegunean, euskal gaztedi alternatiboa sortuz da indartuz gaztegune, independentzia eta sozialismoa zabalduz gaztegunean, herrizar bat bide berri bat lotuz da errotuz gaztegunean. Zerbait gutxi batzuk dena eman behar ez dezaten. Denok eman behar dugu zerbait gutxi batzuk dena eman behar ez dezaten. Inposatutako ereduei uko eginez gaztegunean, euskal gaztedi alternatiboa sortuz da indartuz gaztegunean, independentzia eta sozialismoa zabalduz gaztegunean, bizar bat bide berri bat lotuz da errotuz gaztegunean.